enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Derek Prince est reconnu comme un des enseignants de la Bible les plus renommés de notre époque. Il est l'auteur de plus de 30 livres traduits dans près de 50 langues.
Bonjour, nous arrivons aujourd'hui au terme de notre série d'enseignements « Poser la fondation ». Dans cette dernière partie de l'enseignement sur le thème du jugement éternel, Derek Prince aborde l'évaluation du service chrétien ainsi que le jugement d'Israël et celui des nations païennes.
Vous savez, beaucoup d'entre eux sont une loi pour eux-mêmes. Ils font, en fin de compte, ce qu'ils ont envie de faire. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et méprisent les grands principes centraux de la parole de Dieu. Je pourrais en parler des heures, mais ce ne serait probablement pas très profitable. Mais je dois dire, j'ai récemment écrit une lettre au sujet de Balaam. Cette histoire de Balaam m'a tellement impressionné. Voilà un homme avec des dons prophétiques miraculeux, des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Il a donné des prophéties dans le livre des Nombres, aussi belles que n'importe quelle autre prophétie concernant la destinée d'Israël. Et pourtant, il est mort, exécuté par le peuple d'Israël. Savez-vous quel était son problème? Il est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Et il y est dit clairement que la motivation de Balaam était l'amour de l'argent. Cela lui a coûté son âme. Et vraiment, nous devons nous interroger pour savoir si dans l'Église d'aujourd'hui, nous ne sommes pas motivés par l'amour de l'argent. Ruth et moi, nous avons un passage de l'Écriture qui dit « Nous ne sommes pas tant que cela à colporter la parole de Dieu pour du profit. » C'est une déclaration étonnante, n'est-ce pas? C'était à l'époque de Paul. Paul dit que beaucoup de gens font du profit sur le dos de l'Évangile. Ce sont nos motivations que Dieu recherche. La troisième exigence, c'est la puissance dans laquelle nous opérons. Dans Romains chapitre 15, versets 18 à 19, Paul dit « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Dieu n'ait pas faite pour moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Paul dit « Rien de ce que j'ai fait ne mérite d'être mentionné, excepté ce que le Saint-Esprit a fait à travers moi. » C'est la seule puissance acceptable pour le ministère. C'est la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous rappeler les 3 exigences pour que votre œuvre passe le test du feu. Vos motivations pour la gloire de Dieu. Faites-vous cela dans l'obéissance à la parole de Dieu, ou bien faites-vous ce que vous voulez, ou fixez-vous vous-même les règles du jeu? Et enfin, numéro 3, travaillez-vous avec la puissance du Saint-Esprit ou vous appuyez-vous sur vos propres capacités charnelles? Nous en venons maintenant à 2 modèles de jugement, 2 paraboles racontées par Jésus. Cela m'a posé quelques problèmes pour savoir comment j'allais aborder la chose, mais je crois que je vais devoir les lire. Cela prendra un peu de temps. La première est la parabole de la mine, M-I-N-E. La mine est simplement une mesure. C'était une mesure d'argent. Cette parabole se trouve dans Luc 19. Luc 19. Dans d'anciennes versions, elle était intitulée la parabole de la livre. La mine était une toute petite somme d'argent. Nous allons lire Luc, chapitre 19, versets 11 et suivants. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une autre parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, « Un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Autrement dit, il ne sera pas de retour avant longtemps. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » C'est-à-dire, faites-les fructifier. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Dieu va nous demander de rendre compte de notre service à chacun d'entre nous. Le premier vint et dit « Maître, ta mine a rapporté 10 mines ». Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Ainsi, la fidélité dans notre service sur cette terre déterminera notre position dans l'éternité, les responsabilités que nous serons capables de tenir dans le royaume de Dieu. Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Mais il n'a pas dit « C'est bien, fidèle serviteur. » Il y a eu un degré moindre de délégation de pouvoir. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il dit, « Je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. » Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Il pensait que c'était vraiment injuste de voir celui qui en avait déjà 10 en recevoir une de plus. Mais Jésus poursuit, « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Maintenant, écoutez bien, car la plupart ne pensent pas de cette façon. Mais ça, ce n'est pas la fin de la parabole, il y a encore une phrase. « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » C'est Jésus le juge, pas Jésus le sauveur, mais Jésus le juge. Rappelez-vous, la même personne qui est le Seigneur est aussi le juge. Il sera autant exhaustif et efficace en tant que juge qu'il le fut en tant que sauveur. Est-ce que votre idée de Jésus inclut cet aspect? Ou bien faites-vous partie de ceux qui disent « Gentil Jésus, doux et débonnaire, loué soit Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il existe une autre face de Jésus. Il est le juge aux yeux comme des flammes de feu. » Une épée à 2 tranchants sortant de sa bouche, une voix comme le bruit de grandes eaux, et les pieds comme du bronze dans la fournaise. Et quand Jean, le rédacteur de l'Apocalypse, le rencontre sous cet aspect, il tomba à ses pieds comme mort. Voilà qui m'impressionne. Jean, qui avait la relation la plus proche avec Jésus de tous les disciples, il s'était couché sur sa poitrine lors du dernier souper. Il était l'un de ceux à qui Jésus s'était révélé sur la mer de Galilée et avec qui il avait petit déjeuner. J'aime bien cela, soit dit en passant. J'aime bien le fait que Jésus ait préparé le petit déjeuner pour ses disciples. Quoi qu'il en soit, voilà ce même Jean qui avait connu le Seigneur si intimement, confronté à Jésus en tant que juge, et le voilà qui tombe comme mort à ses pieds. Souvenez-vous que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, votre service dans cette vie détermine votre position dans l'éternité. L'homme qui avait 10 mines a reçu le gouvernement de 10 villes. Celui qui avait 5 mines a reçu le gouvernement de 5 villes. C'était dans la proportion exacte de leur fidélité dans cette vie présente. Notez bien, Jésus n'a pas dit « c'est bien un bon et talentueux serviteur ». Il a dit « c'est bien un bon et fidèle serviteur ». Certains d'entre nous mettent trop souvent l'accent sur le succès et pas assez sur la fidélité. C'est un privilège de voir les œuvres magnifiques de Dieu dans ce que nous appelons les terres des missions étrangères. Nous pourrions nous vanter un peu en disant « C'est merveilleux, non ? Des milliers de personnes viennent à mes séminaires. » Mais Dieu m'a montré ceci. N'oublie pas, il y a une génération avant toi qui a vu peu de fruits, mais ils ont travaillé, et tu es entré dans leur travail. Ne te fais pas une trop haute opinion de toi-même. Je respecte les pionniers. Je respecte ceux qui ont travaillé et qui ont donné leur vie. Quand les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique de l'Est, 4 sur les 5 moururent, alors qu'ils n'étaient là que depuis quelques mois. Ils ne virent aucun fruit. Mais ils furent des graines tombées dans le sol qui ont produit du fruit plus tard. Je vous le dis comme je le pense. Le seul vrai danger que nous rencontrons, c'est l'orgueil. Vous connaissez l'histoire de cet homme? Je ne devrais pas vous raconter cette histoire, mais cet homme à qui on décerna la palme de l'humilité et à qui on dut la lui ôter parce qu'il a borré sur lui. Alors, laissez tomber votre premier prix d'humilité après ce que je viens de vous raconter. Un mot encore. L'homme qui n'avait rien fait du tout, Jésus lui dit, « Peut-être n'avais-tu pas la capacité de faire des bénéfices par toi-même, mais tu aurais pu la faire fructifier par une banque, et j'aurais retiré mon argent avec un intérêt. » Cela me montre que ce n'est pas toujours mal de recevoir un intérêt. Ça peut l'être dans certains cas, mais pas toujours. Comment cela peut-il s'appliquer pour vous et moi? Que pouvez-vous faire? Nous pourrions dire, « Je n'ai pas un grand ministère, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas administrateur, je n'ai pas beaucoup de talent. Qu'est-ce que je peux faire ?» Mettez-le à la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà comment je le vois. Trouvez un ministère qui porte vraiment du fruit. Examinez-le bien, testez-le et investissez en lui. Ça, c'est mettre son argent à la banque. Vous recevrez les intérêts quand le Seigneur reviendra. Amen. Maintenant, tournons-nous vers l'autre parabole, qui est très semblable, quoique un peu différente, la parabole des talents. Elle se trouve dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu, chapitre 25, versets 14 et suivants. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Notez qu'avec la parabole des mines, chacun avait reçu une seule mine. Mais avec celle des talents, l'un en reçut 5, l'autre 2, et le dernier un seul. Et il les leur distribua selon leur capacité. Je veux que vous compreniez que Dieu vous donne des talents en accord avec ce qu'il vous est capable de faire. Si vous pouvez utiliser 5 talents, il vous en donnera 5. Si vous ne pouvez en utiliser que 2, il vous en donnera 2. Et si vous ne pouvez en utiliser qu'un, il ne vous en donnera qu'un. C'est selon vos capacités que sera déterminée la mesure de ce qu'il vous donne. Puis il dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Frères et sœurs, le Seigneur revient et il fera rendre les comptes à vous et à moi. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Remarquez le même principe. Ce que vous faites dans ce monde détermine ce que vous ferez dans l'éternité. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » On trouve ici un principe différent, l'un 5 talents et l'autre 2, mais les recommandations de départ étaient exactement les mêmes pour l'un comme pour l'autre. En d'autres termes, ce qui compte, c'est le pourcentage que Dieu regarde. Si vous en avez reçu 5, il en attend 100% de rendement. Ce sera 5. Si vous en recevez 2, il en attend 100%, c'est-à-dire 2. Il sait de quoi vous êtes capable et il ne vous demande pas plus que ce que vous pouvez donner. Poursuivons. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Je souligne que la paresse est assimilée à de la méchanceté. La plupart de nos églises n'accepteraient pas les ivrognes. Elles diraient qu'ils ne peuvent trouver place dans la congrégation. Beaucoup de nos églises acceptent les paresseux. Mais du point de vue de Dieu, je suis sûr que la paresse est pire que l'ivrognerie. D'après moi, c'est comme ça que Jésus évalue les choses. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'absoudre l'ivrognerie. C'est un péché, mais je pense que pour Dieu, la paresse est un péché plus grave encore. Jésus dit, Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. À nouveau, on retrouve le même principe. Si vous n'avez pas la capacité de faire fructifier de l'argent par vous-même, investissez-le dans un ministère qui va produire du fruit. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Remarquez, c'est celui à qui a qui reçoit. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà une phrase qui est utilisée plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai regardé où elle se trouvait et j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle n'est utilisée que pour les gens qui étaient tout proches du but. Ils avaient tout pour atteindre le but. Il ne s'agit pas des personnes qui étaient tout à fait extérieures à cela et ne savaient rien de Dieu, mais il s'agit des gens qui ont baigné dedans toute leur vie, qui savaient tout ce qu'il faut savoir et sont restés en dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura cette amertume immense de se dire, j'aurais pu faire cela, j'en ai eu tant de fois la possibilité, mais je ne me suis jamais rendu disponible pour ça. Maintenant, je suis jeté à l'extérieur, dans les ténèbres du dehors. Terrible. J'ajouterai une chose. Les personnes qui furent rejetées était celle à qui l'on avait confié le moins, la personne qui avait un seul talent. Je trouve que cela se vérifie dans l'Église. Fondamentalement, les personnes qui ont beaucoup de capacités feront quelque chose avec. Les personnes qui sont simplement douées en feront quelque chose également. Mais ceux qui n'ont qu'un seul talent se calent bien sur leur siège et disent « Je ne suis pas très doué, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, je ne ferai rien. » ils seront jetés dehors. Je veux m'adresser à certains d'entre vous. Je ne cherche pas à vous identifier, mais vous êtes des personnes avec un seul talent. Vous avez sous-estimé vos capacités et vous avez dit « Je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas faire grand-chose. Dieu ne me demande pas grand-chose de moi. » Si, Dieu exige la fidélité que vous ayez reçue beaucoup ou peu. J'ai prêché cela dans notre église à Fort Lauderdale, sur les personnes qui n'ont qu'un talent. Et j'ai demandé que les personnes qui pensaient n'avoir qu'un talent, non encore exercé, se manifestent. Le résultat fut un choc. La moitié de l'église se manifesta. Je me suis rendu compte que c'est un des problèmes majeurs que l'on rencontre chez beaucoup de croyants. Je n'ai qu'un seul talent. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je ne vais rien faire. Jésus n'acceptera pas cela. Il l'a dit, tu aurais pu le mettre à la banque. Ton unique talent, tu aurais pu l'investir dans un ministère qui rapporte vraiment du fruit. Et de cette façon, beaucoup de ce fruit aurait été porté à ton crédit. Bien-aimés qui n'avaient qu'un seul talent, levez les yeux. Vous êtes en danger. Vous pourriez bien entendre ces mots. Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, tirons quelques principes de ces paraboles. Numéro 1. Notre service dans cette vie détermine notre position dans la prochaine vie. Numéro 2. Ne pas utiliser son talent équivaut à le perdre. Numéro 3. Ne pas faire le bien quand vous pourriez le faire est un péché. Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous parlons souvent du péché en acte, mais le péché par omission est tout aussi réel. Je voudrais m'arrêter un moment sur Matthieu, chapitre 5. On y trouve là trois types de personnes qui ont été totalement rejetées par Dieu. La vierge folle, qui n'avait pas pris d'huile avec elle, le serviteur qui n'avait qu'un talent et n'en a rien fait, et le peuple de boucs qui n'avait rien fait pour aider les frères de Jésus. Ils ont tous, en fin de compte, été rejetés par Jésus. Je me suis un jour demandé, qu'avaient-ils tous en commun qui expliquerait leur rejet? Qu'avaient-ils fait? J'ai reçu une réponse toute simple, et ils n'ont rien fait. C'est tout ce que vous avez à faire pour être rejeté. Juste ne rien faire. Pensez-y, c'est grave. Nous allons nous dépêcher pour aborder les autres jugements. Nous avons traité en priorité du jugement des croyants, car c'est celui qui nous concerne directement. Si vous êtes croyant, c'est ce qu'il vous faut connaître absolument. Le prochain jugement sera, je le crois, le jugement d'Israël. Un peuple pas comme les autres, que Dieu a mis à part. Et même s'ils ont été désobéissants et infidèles pendant des siècles et des siècles, Dieu n'a jamais voulu les rejeter. Que dit l'Écriture? Le Seigneur ne rejettera pas son peuple par amour de son nom, car il lui a plu de choisir Israël. Ce que Dieu fait pour Israël ne doit rien au mérite d'Israël, mais seulement au nom du Seigneur, afin que son nom soit glorifié. Dieu va s'occuper d'Israël d'une manière très particulière. Et voici un principe concernant la bénédiction et le jugement que je tiens à vous transmettre. Dieu bénit les Juifs directement, mais il bénit les gentils à travers les Juifs. Ceux d'entre vous ici qui sont des gentils ne doivent pas l'oublier. Toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues, nous les devons au peuple juif. Jésus a dit dans Jean, chapitre 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs ». C'est une déclaration toute simple. Chaque bénédiction spirituelle que vous avez reçue au moment du salut, vous le devez à un seul peuple, le peuple juif. Dieu s'attend à ce que vous gardiez cela en mémoire et que vous agissiez en conséquence. Mais quand vient l'heure du jugement, Dieu frappe les gentils directement. Il juge les Juifs par les gentils. Je vais répéter cela. Dieu bénit les Juifs directement. Il bénit les gentils au travers des Juifs. Dieu juge les gentils directement. Il juge les Juifs à travers les gentils. Quand vous considérez les centaines d'années de l'histoire juive, Dieu a constamment utilisé les nations pour les juger à cause de leur désobéissance et leur infidélité. Le prochain jugement sera donc le jugement d'Israël à travers la grande tribulation. Nous ne lirons qu'un passage de l'Écriture, en Jérémie, chapitre 30, versets 3 à 7. Jérémie, chapitre 30, versets 3 à 7. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Peu importe ce qu'en pensent les gouvernements ou les politiciens, il est écrit qu'ils la posséderont. Et quiconque connaît la Bible sait de quelle terre il s'agit. Il n'y a qu'une seule terre. Un prédicateur, un ami à moi, a dit un jour, « Si le retour des Juifs sur la terre venait de Dieu, il y aurait la paix. » Il ne connaissait pas bien sa Bible, car voilà ce que Dieu dit à ce sujet. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Le peuple juif va bientôt affronter la pire pression qu'il ait jamais connue de son existence. Elle aura lieu après leur retour sur leur terre. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Remarquez bien qu'il n'est pas dit « sauver d'eux », mais « délivrer d'eux ». Et alors, Dieu s'occupera du jugement du peuple juif. À la fin de la tribulation, leur jugement aura eu lieu. Puis Dieu jugera les autres nations. Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. Le temps passe, je dois me dépêcher. Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, remarquez que ceci se réfère à la même période, le retour du peuple juif sur sa terre, Dieu dit, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Dieu dit donc que quand il aura terminé avec les Juifs, il s'occupera des gentils. Il les jugera sur une seule base, la façon dont ils auront traité les Juifs. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Dieu a deux motifs d'accusation. Premièrement, ils ont oppressé le peuple juif. Deuxièmement, ils ont divisé ou partagé leurs terres. Dieu dit, « C'est ma terre, je l'ai donnée à Israël. » Et aucune autorité humaine ou gouvernement n'a le droit de diviser cette terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Exactement ce que Dieu a dit qu'il ne devait pas se faire. La terre a été partagée, elle est en train de l'être, et elle le sera encore probablement. Mais quand Dieu entrera en jugement, il jugera les nations qui ont découpé cette terre. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 25, le jugement des nations, les nations de brebis qui sont invitées à entrer dans un royaume, les nations des boucs qui sont renvoyées du royaume et jetées dans une punition éternelle, le motif premier qui détermine le tri, c'est la façon dont ils ont traité les frères de Jésus. Je le dis car c'est vraiment important, car Israël est un facteur essentiel dans les affaires du monde aujourd'hui. Et beaucoup de nations s'alignent du mauvais côté. Israël ne peut pas se défendre lui-même, mais tôt ou tard, au temps voulu, Dieu interviendra. C'est donc le troisième jugement. Nous ne ferons que mentionner le quatrième, il s'agit du jugement devant le grand trône blanc évoqué dans Apocalypse 20. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Mais il existe un autre livre, grâce à Dieu, qui s'appelle le livre de vie. Et ceux dont le nom se trouve écrit dans le livre de vie entreront dans l'éternité avec Dieu. Les autres seront bannis éternellement de la présence de Dieu. Voilà donc les quatre principaux jugements. Numéro 1, le trône du jugement de Dieu, un jugement qui ne concerne que les croyants. Numéro 2, le jugement d'Israël pendant la grande tribulation. Numéro 3, le jugement de toutes les autres nations devant le trône de Christ avant le millénium. Et numéro 4, le jugement final de tous les morts qui resteront devant le grand trône blanc. Voilà donc les principaux jugements de Dieu et la façon dont j'ai pu les comprendre. Et chacun d'entre nous maintenant doit se poser cette question. Suis-je prêt à affronter le jugement de Dieu? Est-ce que je vis la vie qui me permettra de ne pas être couvert de honte lorsque je serai debout devant lui?
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.